Shema Israël, Audi Israël, Écoute Israël, Ensun Israël, Escute Israël.
Monseigneur Marc Ayé, évêque de Bayonne, Lescar et Oloron.
En cette fête des saints apôtres Pierre et Paul, donc vendredi 29 juin, nous recevons notre évêque, Monseigneur Marc Ayé. Bonjour.
Bonjour.
Et bonne fête à vous, puisque vous êtes un des successeurs des apôtres.
Merci.
Et nous sommes également avec Olivier Drapé, délégué épiscopal à l'information et à la communication de notre diocèse. Et nous saluons chaleureusement tous les auditeurs de Radio La Pourdie et de Radio Présence Lourdes Pyrénées. Alors, nous allons en quatre parties aborder, balayer l'actualité du monde et de l'Église, Monseigneur. Nous parlerons dans une première partie du séminaire, des ordinations, des vocations et des communautés paroissiales. Dans la seconde partie, nous parlerons de l'actualité avec tout ce qui se passe dans le monde. En troisième partie, nous parlerons des réfugiés et puis de la bioéthique. Et en dernière partie, nous parlerons des nominations et également de ce qui va se passer dans notre diocèse cet été. Commençons tout de suite par les ordinations, puisque le 30 juin, nous avons la joie d'ordonner trois prêtres dans notre diocèse.
Oui, c'est un don de Dieu. Hein. C'est vrai que dans le contexte actuel de pénurie des vocations qui marque tous nos diocèses de vieille chrétienté, en France en particulier, bien sûr, en ce temps où les séminaires ne sont pas remplis et que beaucoup se vident et même ferment, c'est une grande grâce que nous accueillons comme un don de Dieu que de pouvoir donner trois nouveaux prêtres à notre diocèse. Alors, c'est vrai qu'il y a une belle dynamique qui s'est instaurée depuis quelques années, je pense depuis l'ouverture de la propédeutique en 2009 et le séminaire en 2010, qui a permis d'accueillir des jeunes qui veulent servir le diocèse de Bayonne, Lescar et Oloron, même si tous ne viennent pas, à proprement parler, de nos communautés locales, ne viennent pas de notre terroir, un certain nombre quand même, mais en tout cas ils s'insèrent avec bonheur grâce à une formation qui n'est pas seulement en vase clos dans un séminaire, mais très en relation avec les communautés chrétiennes de notre diocèse, les paroisses, les diverses pastorales, en particulier la pastorale des jeunes, et je sens bien que des jeunes même qui viennent d'ailleurs mais qui veulent servir le Seigneur dans ce diocèse, finissent par plus que s'inculturer et entretenir des relations fraternelles entre eux d'abord, ce qui est un gage pour le futur, parce qu'ils auront à travailler ensemble à la mission, mais aussi s'attachent aux communautés chrétiennes dans lesquelles ils sont insérés pastoralement, et ces communautés s'attachent à eux, et je pense que demain nous verrons sans doute une cathédrale archicomble, non seulement à cause des familles nombreuses de ces trois ordinants, mais aussi à cause des paroissiens, des fidèles du diocèse qui viennent aussi dire leur action de grâce pour entourer ces nouveaux prêtres.
C'est le quatrième prêtre que vous ordonnez depuis que vous êtes arrivé dans le diocèse?
Alors ça fera le 14e prêtre, donc c'est une belle grâce. Je rends grâce à Dieu parce que je connais bien de mes confrères qui n'ont pas ordonné de prêtre depuis des années, qui n'ont pas de séminariste non plus, et c'est une volonté de la Providence. Hein. Je ne m'en donne aucun mérite. Hein. Je suis très conscient de ce terreau de chrétienté. Je l'ai dit au prêtre jubilaire que j'ai célébré le 24 juin, en même temps que les admissions de trois candidats au sacerdoce de notre séminaire. Je leur ai dit votre fidélité d'aujourd'hui, votre longévité, 80 ans pour l'un d'entre eux, 70, 60 ans, 50 ans, ceux qui ont été ordonnés en 1968, année tout à fait emblématique, et ils étaient quand même 11 à répondre à l'appel, et 25 ans, il n'y en a qu'un, prêtre diocésain, vous voyez, de 1 en il y a 25 ans, 11 il y a 50 ans, et ils étaient plus nombreux que ça encore. Eh bien, je leur ai dit, ces nouveaux prêtres, ces séminaristes, ils sont liés, ils sont le fruit de votre fidélité, de votre générosité pendant tant d'années, même si parfois vous ne les reconnaissez pas, parce que c'est vrai que la génération 2018 ne ressemble pas à celle de 1968, mais c'est le même Christ qui nous appelle, et c'est le même que nous sommes appelés à servir dans des circonstances tout à fait différentes, parce que la roue tourne, évidemment. Hein. Et donc je crois qu'il y a cette fidélité, et puis c'est la prière des fidèles. La prière des fidèles, je pense bien sûr depuis très longtemps dans les paroisses, dans les familles, et puis ces deux chapelles d'adoration perpétuelle où de nombreux fidèles continuent de se relayer 24 heures sur 24 depuis 2009 pour demander des vocations sacerdotales.
Monseigneur, est-ce que vous pouvez nous rappeler qui sont ces trois nouveaux prêtres ?
Alors, il s'agit d'abord de Maxime de Minck, qui lui est à moitié basque, on peut dire, puisqu'il est originaire de Dittorotz, près de Domzin, par sa mère, même s'il a grandi ailleurs, mais il a passé toutes ses vacances ici, et il a fait la propédeutique et le premier cycle au séminaire de Bayonne. Puis, je l'ai envoyé à Rome, au séminaire Sede Sapientiae, pour commencer aussi des études de philosophie qu'il va continuer pendant 2 ans. Ensuite, il s'agit de Vincent-Marie Venn, qui lui est du diocèse voisin, puisqu'il est de Tarbes-Lourdes, même s'il est par sa famille pied noir. Donc il est un peu migrant, si je puis dire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que lui, il a opté pour le diocèse il y a déjà un somme d'années. Et comme il fallait aussi qu'il puisse être dans un climat serein, il a rejoint donc le navire, je dirais, en cours de route. Et il a fait sa formation au séminaire Sede Sapientiae à Rome. Et il est inséré dans la paroisse d'Andaille, depuis qu'il est séminariste, et puis maintenant depuis qu'il est diacre. Donc depuis plusieurs mois, il est donc complètement en insertion dans la paroisse d'Andaille, Notre-Dame de Bidassoa. Et puis ensuite, c'est Vianney Paquet, lui qui fait partie de cette équipe de séminaristes de la Fraternité des Saints Apôtres, qui, lorsque cette fraternité a été dissoute dans le diocèse de Malines-Bruxelles, où elle avait été fondée par Monsieur Léonard, ont été invités par le Saint-Siège à rejoindre ou bien leur diocèse d'origine, ou bien le diocèse qui les accueillerait. Comme il y avait déjà des liens avec cette fraternité dans le diocèse de Bayonne, qu'il ne voulait pas servir dans son diocèse d'origine, qui est le diocèse de Toulon, eh bien il a d'abord voulu discerner, et puis il a opté finalement pour le diocèse de Bayonne-Lescar-Yoloron.
L'avenir du séminaire, comment vous le voyez pour les futurs mois, les futures années? Est-ce que vous arrivez à recruter?
Alors c'est toujours fragile et modeste. On peut connaître aussi des hauts et des bas. Pour l'instant, le Seigneur a toujours pourvu, même si c'est toujours des effectifs tout à fait modestes. Nous prions, j'appelle les diocésains à prier pour les vocations sacerdotales, pour que les rentrées puissent se faire régulièrement. Pour l'instant, on est toujours un peu dans l'expectative, comme tous les ans à Paris Époque. Mais je suis plein d'espérance, parce que je vois que ce séminaire se construit grâce à son recteur, aux prêtres qui collaborent à sa charge, les formateurs permanents, les pères spirituels, les enseignants. Il y a une belle équipe qui commence à se constituer, se stabiliser. Je sens aussi qu'il y a des spécificités, sans doute, dans ce séminaire qui correspondent aux attentes des jeunes qui y entrent. Je vois en même temps qu'il y a des relations fraternelles très fortes qui se construisent, qui se tissent entre les séminaristes eux-mêmes. Donc ça, pour moi, c'est un motif d'action de grâce. Je voudrais aussi qu'on donne plus de visibilité à ce séminaire, si j'ai tenu à ce qu'il puisse être un peu à l'écart, pour qu'il puisse vivre l'expérience des apôtres avec le Christ, à l'écart des foules. Je crois aussi qu'il faut que ce séminaire soit visible, qu'il soit ouvert, même si les séminaristes sont en lien avec des communautés d'insertion. Et d'ailleurs, nous ferons faire un film un peu professionnel aux ordinations et à la rentrée prochaine pour donner une belle visibilité à ce qui se vit dans notre séminaire diocésain.
Alors, Monseigneur Raillé, le mois de juin, c'est aussi la période des nominations. Il y en a pas mal qui sont déjà apparus dans le précédent bulletin diocésain, dans la revue diocésaine, et il y en a d'autres qui vont paraître très prochainement. Alors, comment arrivez-vous à pourvoir toutes les paroisses? Parce que je crois que c'est assez compliqué maintenant.
C'est un vrai casse-tête. C'est vrai dans beaucoup de diocèses, et encore plus dans d'autres diocèses que le nôtre, parce qu'il se trouve qu'on a encore quelques forces vives quant à nous. Et qu'on a encore beaucoup de prêtres, même si beaucoup commencent à être âgés, fatigués, et puis arrivent à l'âge où on peut se retirer. Alors c'est vrai que nous sommes confrontés à cette difficulté, qu'il est difficile de faire des plans sur la comète et d'avoir des perspectives d'avenir, même si on est en réflexion pour savoir comment les prêtres doivent habiter leur ministère, en particulier leur lien au territoire dans lequel se trouvent les communautés qui leur sont confiées. Vous remarquez en tout cas qu'il y a un nombre important de mouvements de prêtres cette année, parce qu'il y a un certain nombre de prêtres qui se retirent, qui demandent à prendre la retraite bien méritée, et que vous avez remarqué aussi que les prêtres venus d'ailleurs commencent à prendre des places de premier plan dans notre dispositif pastoral. Nous commençons à demander à des prêtres fidei donum, qui jusqu'à présent venaient renforcer des équipes, donc des prêtres qui viennent d'Afrique en particulier, qui venaient renforcer des équipes, mais qui aujourd'hui sont nommés administrateurs pour un an, et en tout cas curés de paroisse. Donc ça veut dire que nous sommes dans une période où on va manquer de prêtres diocésains formés dans notre diocèse, et que pour faire la soudure, on a besoin aussi de prêtres qui viennent d'ailleurs et qui apportent aussi un souffle missionnaire, parce que c'est pas seulement une main d'œuvre dont nous avons besoin, mais c'est aussi une spécificité qu'ils apportent en témoignant aussi d'églises en pleine expansion, en particulier en Afrique, et donc de jeunes églises qui sont très zélés et enthousiastes à annoncer l'évangile dans cette première annonce qu'ils font encore auprès de populations qui n'ont pas encore entendu l'évangile. Donc je pense que c'est aussi un plus pour notre diocèse, mais on ne va pas non plus dépouiller, si je puis dire, les jeunes églises d'Afrique qui ont besoin d'autant plus de ces prêtres, même si c'est important pour eux de faire un temps en France, une expérience pastorale, un peu de recul par rapport à cet élan missionnaire qui leur permet d'enraciner encore plus leur sacerdoce pour retourner ensuite au service de leur communauté.
Alors comment faire? Parce que quand même, il y a un constat que beaucoup font, c'est que quand il n'y a plus de rassemblement dominical dans un village, par exemple, la communauté a tendance à disparaître.
C'est ça, oui.
Alors comment on va faire? Parce que je prends par exemple l'exemple d'un gros village de 2000 habitants en Labour, où il y a beaucoup de monde en été, il n'y a pas de messe tous les dimanches, et même les touristes trouvent ça bizarre qu'il n'y ait pas de la communauté qui se rassemble. Alors est-ce que tout doit tourner autour du prêtre, ou est-ce qu'il n'est pas temps peut-être de demander aussi aux laïcs de prendre en charge la prière du dimanche? Enfin, comment vous voyez ça?
Il y a deux choses qu'il faut voir. D'abord, on se trouve quand même dans des paroisses qu'on a voulu dans ce diocèse en 1998, donc il y a 20 ans, qui sont le résultat d'anciennes paroisses. Donc il faut aussi jouer la carte de la paroisse. Ensuite, surtout dans le Pays basque, le gros village de 2000 habitants qui n'aura pas la messe exceptionnellement le dimanche, parce que ça tourne et qu'il n'y a pas sept prêtres, et il n'a pas loin à aller pour aller au centre de la paroisse. Donc ça encore, il faut faire la différence entre la communauté qui se rassemble sans le prêtre et la nécessité de l'Eucharistie. Donc quand on peut aller à la messe, c'est quand même l'Eucharistie qui fait l'Église, et donc ça c'est très important. Par contre, je pense qu'il faut inventer un nouveau mode du ministère du prêtre avec les laïcs, d'ailleurs en co-responsabilité avec les laïcs, qui ne soit plus seulement centré sur le fonctionnement d'une communauté, à travers les activités principales qui la structurent, en particulier la messe, qui semble être le passage obligé de l'expression de la communauté. C'en est le sommet, c'en est la source, mais ça suppose aussi toute une initiation et qui est accomplie par une nouvelle évangélisation. Et je pense qu'il faut absolument que, pour relancer et pour revitaliser nos communautés, eh bien qu'on insiste davantage sur des tâches d'évangélisation que sur des tâches cultuelles. Donc c'est pas absolument dramatique si on n'a pas la messe d'horaire à tous les endroits de la paroisse. Ce qui est important, c'est de réveiller l'élan missionnaire dans la paroisse.
D'où le parcours Cléophas.
D'où le parcours Cléophas et d'où la mise en place des pôles missionnaires qui se fera progressivement dans notre diocèse. En tout cas, pour revenir aux nominations, vous verrez quand même que nous essayons déjà d'anticiper l'avenir en constituant, là où c'est possible, des équipes de prêtres qui vont déjà constituer une fraternité avec les fidèles qui sont autour d'eux pour pouvoir revitaliser des communautés.
Radio La Pour Dire à Tia, 96.8 à Bayonne, 96.9 à Saint-Palais, 106.9 à Saint-Jean-Pied-de-Port.
Monseigneur, le président de la République, Emmanuel Macron, a rendu visite au pape François le 26 juin dernier au Vatican. Il a même été intronisé chanoine d'honneur de la basilique du Latran. Est-ce que ça signifie qu'il y a une nouvelle conception de la laïcité qui peut être bénéfique pour les catholiques, ou un retour en grâce des catholiques? Quelle signification donnez-vous à cet événement?
Il faut d'abord, c'est sûr, de manière factuelle, saluer Des relations apaisées entre le président de la République et l'Église catholique, qui avait déjà commencé au Bernardin au mois d'avril dernier, je crois que c'était le 9 avril, où le président de la République, avec d'autres ministres et parlementaires, a répondu à l'invitation du Conseil permanent des évêques de France à une réception au Bernardin. Et ce discours qu'il a prononcé, qui était très référencé du point de vue spirituel, de notre spiritualité, littérature, théologie catholique, a été salué évidemment par les catholiques comme une le fruit d'une laïcité apaisée, en disant non, il y a une séparation entre l'Église et l'État, mais il y a un partenariat d'ailleurs qui se vit de manière très habituelle dans nos communes et dans nos terroirs, loin des combats d'un autre âge qui agitent parfois la capitale, sur lesquels les médias évidemment ont les yeux fixés, mais nous on est sur le terrain, dans des terroirs de la France qui heureusement est au-delà du périphérique. Ce qui est sûr, c'est que ça a causé des levées de boucliers chez les partisans d'un laïcisme pur et dur, de la loi de séparation de l'Église et de l'État 905, qui, comme on le sait, est née dans la douleur et qui s'était beaucoup apaisée, en particulier grâce à l'union sacrée de la guerre de 14-18, dont nous avons célébré cette année, ou dont nous allons célébrer cette année le centenaire de l'armistice. Bien, donc ça c'est plutôt positif, et que le président Macron aille visiter le pape François, qui est quand même un personnage incontournable de la scène internationale, étant donné son aura et médiatique, ça ajoute certainement à cette relation apaisée, qu'il accepte comme d'autres avant lui, mais je crois pas son prédécesseur, ce titre de chanoine d'honneur du Latran, qui a été conféré au chef d'État français depuis Henri IV, et au temps de la République, je crois, qui a été seulement honoré par le président de Gaulle, si je me souviens bien. Voilà, tout ça est très positif. Voilà, moi je ne peux pas dire autre chose. Après, on peut pas s'empêcher de penser que derrière il y a aussi quelques manœuvres de communication. Nous avons un président de la République qui est un grand communicant et qui sait qu'il est attendu par les catholiques, en tout cas par une partie assez militante, comme on dit aujourd'hui, des catholiques, sur les lois sociétales. On voit bien que c'est un président qui a été décrié par la gauche parce qu'il est du côté davantage de la droite sur le plan économique, avec toutes les réformes et les lois financières qu'il a mises en œuvre. Et d'autre part, il faut bien puisqu'il est ni de droite ni de gauche, il est aussi de la droite que de la gauche. Et donc, on sent bien qu'il est un peu gêné par rapport à toutes ces lois sociétales, dont on ne voit pas très bien comment il peut reculer devant les effets d'annonce qui les précèdent aujourd'hui, et même y compris au cours de sa campagne électorale. Et donc, peut-être qu'il amadoue aussi un peu les catholiques, de manière à ce qu'il n'y ait pas trop de réactions négatives au moment où il faudra passer à l'acte.
Quand le pape lui offre une médaille représentant Saint-Martin, je pense que vous êtes sensible au symbole.
Oui, bien sûr, oui.
Qui est issu de la communauté Saint-Martin.
Tout à fait, Saint-Martin, l'apôtre des Gaules, qui est le saint français par excellence, puisque vous savez que c'est le nom patronymique le plus répandu en France, et ainsi que celui qui est au sein de le plus d'églises et de villages qui sont sous le patronage de Saint-Martin en France. Bon, mais c'est Saint-Martin qui coupe son manteau. Est-ce que c'est parce que Saint-Martin est un peu un migrant, dans le sens où il est né en Pannonie, c'est-à-dire dans l'actuelle Hongrie, qu'il est arrivé au hasard de ses mutations militaires dans la Légion romaine à Amiens, qu'il est en fait romain par son père? Bon, voilà. C'est surtout le geste du manteau partagé, donc l'acte de charité, l'œuvre de miséricorde auquel le Saint-Père est si sensible.
Est-ce que c'est une manière de dire au président qu'il ne doit pas être que le président des riches ?
C'est possible aussi, c'est une interprétation qu'on peut comprendre, parce que c'est souvent ce qui lui est reproché dans les médias, d'être le président des riches et de ne pas être suffisamment attentif aux réalités des précarités qui grandissent quand même dans notre pays.
On suppose, Monseigneur, que au cours de cet entretien de près d'une heure, je crois, entre le pape et Emmanuel Macron, il a été question, entre autres choses, du problème de l'immigration, des réfugiés, des migrants. Que pensez-vous de l'actualité toute récente, c'est-à-dire du problème, effectivement, qui s'est posé de l'accueil par les pays européens ou du refus de l'accueil par certains pays européens des migrants qui étaient sur l'Aquarius d'abord ou sur le Lifeline plus récemment et que les pays européens sont parfois réticents à voir débarquer sur leurs côtes pour des raisons qui tiennent en partie d'ailleurs aux réticences de l'opinion publique elle-même. Comment voyez-vous ce problème dramatique qui n'épargne pas notre pays, la France ?
D'abord, il semble en effet que la crise migratoire soit un coin enfoncé dans l'unité de l'Europe. Hein, on le voit avec la montée de ce que l'on appelle un peu vulgairement les populismes dans ce genre de pays de l'Europe occidentale, sachant qu'il y avait déjà des pays de l'Europe de l'Est qui sont particulièrement réticents à accueillir des migrants, comme on le sait, et qui sont l'objet souvent de menaces, de sanctions de la communauté européenne. Et puis on voit que maintenant, bah, c'est l'Autriche, c'est en Allemagne aussi parfois, l'Italie, hein, qui elle-même, avec les dernières élections législatives, ont porté au pouvoir des gens qui sont davantage attentifs à cette crise migratoire. Il faut dire aussi que l'Italie est le réceptacle de tous les migrants, hein, avant qu'ils puissent ensuite être dispatchés, si je puis dire, dans les autres pays européens. C'est vrai qu'on sent qu'il y a une vraie crise migratoire, qu'il ne faut pas regarder à la légère et se contenter de clichés qui correspondent à une presse qui diabolise un peu la question, hein, et on traite les choses de manière trop binaire. Hein. On a l'impression que dès qu'on parle de régulation, d'une politique migratoire qui régule un peu les flux, on a l'impression que ben, voilà, on ne veut pas accueillir l'étranger, on est xénophobe, on est diabolisé. Entre l'immigration zéro et l'accueil sans régulation des migrants, il y a une différence. Moi, je crois d'abord que le pape nous rappelle à notre devoir de charité, hein, qui est d'accueillir l'étranger qui fuit des situations insupportables, en particulier les gens qui sont réfugiés pour des raisons politiques, quand leur liberté est en danger, ceux qui sont persécutés. Hein, après, viennent se mêler là une notion un peu diffuse de migrants économiques. Et là, je crois qu'on se rend bien compte que toute cette médiatisation de l'accueil des migrants cache aussi des mobiles qui ne sont pas suffisamment transparents. Et on est bien conscient que les flux migratoires inédits que l'on connaît aujourd'hui sont surtout liés à un système économique profondément injuste, hein, une mondialisation du libre marché. Non seulement la liberté de circulation des personnes et des biens, mais la liberté de circulation des capitaux. Et on voit bien que toutes ces aides au développement sont évidemment insuffisantes dans les pays de départ de ces migrants, qui effectivement sont des conditions qui les contraignent à quitter leur pays, pas seulement pour des raisons de persécution ou de guerre, mais c'est aussi, on a l'impression qu'il y a, un marché, un libre marché qui est profondément injuste, qui mondialise l'économie et qui provoque nécessairement, eh bien, des déplacements de main-d'œuvre. Et je crois qu'il faut regarder ça avec beaucoup de d'attention. Et il y a un capitalisme sauvage qui aujourd'hui est la cause de la migration et qui met sur les routes de manière indue et injuste des hommes et des femmes qui auront des difficultés à être accueillis ensuite dans les pays où ils viennent en trop grand nombre parce qu'on n'a pas les conditions décentes pour les accueillir conformément à leur dignité et qui appauvrissent profondément ces pays qui sont déjà en situation de grande précarité. Et donc si on ne dénonce pas un système économique mondialisé qui est à l'origine de ces flux migratoires, on reste en deçà de la question et on reste dans l'affectif ou on reste parfois même dans la démagogie.
Quand vous voyez par exemple, vous parlez de démagogie, quand vous voyez par exemple le ministre de l'Intérieur italien qui veut recenser les Roms dans son pays, c'est quand même inquiétant.
Bien sûr que c'est inquiétant, mais ça va causer... Moi, j'ai essayé de prendre de la hauteur, parce que je ne suis pas chef d'État, et je n'ai pas, grâce à Dieu d'ailleurs, la responsabilité de porter de telles difficultés dans un État. Il faut rappeler des choses fondamentales. Oui, le droit à émigrer, mais le droit à rester dans son pays d'origine et doit être garanti aussi à tous les citoyens de la Terre. Hein. Le droit à une société aussi, à accueillir les migrants, mais à garder son identité culturelle dans la continuité historique qui détermine le profil d'une nation. Tout ça doit être considéré ensemble et pas seulement comme les médias nous y invitent aujourd'hui, où nous sommes dans le zapping permanent et dans le règne de l'image, regarder des clichés, faire arrêt sur image. Mais il faut regarder ça dans un ensemble.
Vous faites partie des 60% de Français qui considèrent qu'il y a trop de migrants en France?
Je ne me suis pas prononcé là-dessus. Je comprends que ceux qui vivent des situations que nous ne vivons pas, nous, dans nos terroirs, suffisamment protégés, je peux comprendre que pour eux, la vie ne soit pas facile. Et on ne peut pas simplement se contenter... Parce que derrière tout ça, ces médias, n'oubliez pas que la plupart de la grande presse française, elle est alimentée par ce grand capitalisme. Je crois que le grand ennemi, c'est ça. J'entends bien le capitalisme sauvage, le libre-échange, le libre-marché qui s'est établi de manière mondiale et qui sert bien les intérêts de quelques-uns. Mais en tout cas, pas ceux du citoyen de base que nous sommes généralement.
La situation des enfants aux États-Unis, aux frontières des États-Unis, ce qu'on a vu, ces images où on sépare des familles.
Oui, et là c'est terrible, mais je crois que ça s'est fait tout.
C'est du capitalisme sauvage.
Oui, tout à fait. Ça s'est fait malheureusement dans tous les gouvernements américains. Du temps d'Obama, ça se faisait aussi, mais on en parlait moins. Ça se fait aussi alors comme on en a parlé plus, je crois que j'ai cru comprendre que le président Trump était revenu en arrière et que désormais il ne sépare plus les enfants des familles. Mais enfin bon, ça fait partie des effets collatéraux absolument dommageables.
Radio Lapourdi Iratia, 96.8 à Bayonne, 96.9 à Saint-Palais, 106.9 à Saint-Jean-Pied-de-Port.
Monseigneur, à l'actualité... pour l'Église, pour les catholiques, pour les citoyens, c'est aussi la bioéthique. Hein. Le gouvernement, en principe, doit à présent, en tenant compte probablement des avis recueillis dans le cadre des États généraux de la bioéthique, élaborer un projet de loi sur lequel travaillent déjà un certain nombre de députés en commission. Enfin, en tout cas, la question de la bioéthique fait l'objet de travaux de parlementaires. Est-ce que ça vous inquiète? Est-ce que vous ressentez aussi, de la part de l'Église et des catholiques et de nos concitoyens, une inquiétude légitime sur ces sujets?
Bien sûr. Moi, je suis très inquiet, évidemment, de ces évolutions sociétales. D'ailleurs, on parlait de la rencontre avec... le président Macron, du pape François, qui a duré 57 minutes, je ne peux pas penser un instant que le pape n'a pas abordé avec monsieur Macron, sans doute la question des migrants, mais aussi la question de la bioéthique, de ces états généraux de la bioéthique et de ces lois qui se préparent sur la PMA pour toutes ou l'euthanasie, la fin de vie en particulier, car elles sont plus emblématiques. Appelés d'ailleurs par le CCNE les thèmes plus sociétaux parmi les autres. Et d'ailleurs, vous aurez remarqué que le 27 juin, jour même où il recevait le président Macron, le pape tweetait, si je puis dire, enfin par ses services, mais enfin c'est quand même lui, c'est sa pensée qui en émane, il tweetait « Nous sommes appelés à prendre soin des personnes âgées, des malades, des enfants à naître. La vie doit toujours être protégée et aimée de sa conception à son terme naturel. » Et on sait combien le Saint-Père est très sensible à cette question de la vie naissante et tout ce qui tourne autour de la vie et de la famille. Hein. comme il l'a rappelé, à bien des circonstances, des moments, et en particulier récemment, en recevant les associations catholiques, le Forum des associations familiales italiennes, pas seulement catholiques d'ailleurs, où il y a eu des paroles d'ailleurs étonnantes, hein, qui évidemment ont fait bondir.
Il a condamné l'eugénisme.
Oui, il a condamné l'eugénisme. Je vous cite un passage. Au siècle dernier, tout le monde était scandalisé par ce que faisaient les nazis pour protéger la pureté de la race. Aujourd'hui, ici, nous faisons pareil avec des gants blancs. Évidemment, il prend pas de gants, hein, quand il parle de la vie, hein, et du droit inviolable à la vie, hein, pour tout être. Et on voit bien que toutes ces évolutions qui sont inquiétantes. Et c'est là d'ailleurs où je me permets de faire une petite parenthèse en disant que l'encyclique Humanae Vitae du pape Paul VI, qui sera canonisé d'ailleurs en octobre prochain, et qui est déjà bien heureux, qui date du 25 juillet 1968, donc ça fait 50 ans, et était particulièrement prophétique. Pourquoi elle était prophétique? Parce que tout ce qu'elle prévoyait, eh bien, est effectivement arrivé, hein. Et c'est pour ça que le pape a rappelé les lois, les sages dispositions du Créateur inscrites dans la nature de l'homme et de la femme, en s'opposant à des évolutions qui pourraient s'opposer précisément à ces sages lois du Créateur, ces sages dispositions. Et on voit que quand l'homme s'oppose à ces sages dispositions du Créateur, eh bien, il par son propre arbitraire, au nom d'un progrès technique, donc il devient parfaitement l'esclave, eh bien, l'humanisme qu'il prétend développer devient inhumain. Et aujourd'hui, par rapport à la PMA, on est très centré sur le droit à l'enfant, comme si l'enfant était un objet de désir, et comme s'il était d'ailleurs une marchandise, parce qu'on voit bien la marchandisation d'abord des gamètes, avant d'être la marchandisation des corps, s'il s'agit de la GPA, eh bien, n'est pas reconnu dans sa dignité. Alors qu'il s'agirait de parler d'abord du droit de l'enfant. Avoir un père et une mère, d'ailleurs tous les sondages d'opinion plaident dans ce sens. Et vous aurez remarqué d'ailleurs que ces états généraux de la bioéthique ont été commandés par le gouvernement Macron au CCNE, hein, le Conseil consultatif national d'éthique, en disant qu'il faudra un large consensus pour que la loi 1993 évolue et en faveur d'une PMA pour toutes, pour les femmes célibataires ou pour les femmes en couple. Eh bien, ce large consensus, tant s'en faut, n'est pas arrivé. Puisque aussi bien les débats qui se sont passés en région, organisés par le CCNE, avec le choix des thèmes et des intervenants, aussi bien les contributions très nombreuses des citoyens sur le site dédié aux états généraux de la bioéthique, que les auditions qui ont été faites d'experts de tous bords auprès du CCNE, eh bien, conduisent à une majorité de voix qui s'élèvent contre l'évolution sociétale demandée et contre la PMA pour toutes. Alors on dit maintenant par des pirouettes dont on a le secret et sans doute des campagnes de médiatisation qui vont permettre d'étouffer et d'anesthésier un peu ces résultats, mais que, ben oui, mais c'est pas représentatif de la population, etc. Je ne sais pas comment M. Macron, ça va être un exercice d'équilibrisme auquel sans doute il est rompu, mais qui va pas être très facile pour lui.
À propos de bioéthique, Monseigneur, dénominations sont intervenues récemment. Le gouvernement met en place une mission d'information sur la bioéthique avec deux députés qui auront des responsabilités importantes. Un président qui sera, je crois, le député républicain Xavier Breton, qui s'est montré plutôt défavorable à l'extension de la PMA aux couples de femmes, mais aussi le député La République En Marche, Touraine, Jean-Louis Touraine, qui sera le rapporteur de cette mission d'information. Or, le député Touraine est connu pour des positions dont il ne fait pas mystère sur l'extension de la PMA, favorable à la GPA, favorable à l'euthanasie, favorable au suicide assisté. Alors, tous ces sujets et les autres aussi qui ont été abordés dans le cadre des états généraux de la bioéthique, comme l'intelligence artificielle, les dons d'organes, etc., sont tellement nombreux et complexes qu'on est un peu perdu. Alors, quel est pour vous l'enjeu principal de ces lois bioéthiques qui sont annoncées?
D'abord, il faut voir comment fonctionnent nos institutions. On peut faire tous les débats que l'on veut. sonder l'opinion des citoyens d'une manière générale, comme ça a été fait par somme de sondages. Le dernier en date, qui date de juin 2018, qui a été commandé à l'IFOP par Alliance Vita, sans doute, mais à l'IFOP, qui est un sondage parfaitement neutre et objectif, montre quand même que l'opinion est réticente à cette PMA sans père, parce que c'est ça qu'il faut dire. Pas dire seulement la PMA pour toutes. Parce que là, on insiste sur le principe d'égalité et on atteint, de manière très superficielle d'ailleurs, parce qu'il n'est pas vraiment fondé, le principe de non-discrimination. Hein. Pourquoi les couples hétérosexuels, dont l'infertilité a été médicalement diagnostiquée, seraient-ils privilégiés en ayant accès à la procréation médicalement assistée, généralement par fécondation in vitro avec transfert d'embryon, homologue ou hétérologue, hein, comme on le sait, et les femmes dont on reconnaît le mariage par la loi Taubira n'auraient-elles pas le droit à la procréation, sauf qu'on n'est pas dans un cadre de figure identique, mais c'est pourquoi il n'y a pas effectivement de discrimination, parce que dans un cas, il y a une ouverture naturelle à la vie entre un homme et une femme, car jusqu'à preuve du contraire, il faut un homme et une femme pour avoir un enfant et concevoir un enfant, même si ça se fait par les moyens techniques, et deux femmes ne sont pas habilitées, par la nature en tout cas, à avoir un enfant, sinon avec un donneur de sperme, une insémination artificielle, et nécessairement de l'entrée d'un intrus dans leur relation qui n'est pas par nature féconde. Mais vous avez d'autres sondages qui prennent les choses d'un autre point de vue et qui insistent précisément sur le fait que cette PMA, c'est l'organisation par la loi d'une situation qui sans doute peut advenir par des défaillances de la nature et auquel cas il faut y pallier par des mesures sociales et solidaires, mais veut organiser légalement la procréation sans père. Et ça, c'est beaucoup plus important. Est-ce qu'on reconnaît l'importance d'abord du père dans la croissance et l'éducation d'un enfant, même si on sait bien qu'il y a des enfants qui n'ont pas eu de père par les hasards, hélas, et les aléas de leur histoire et de l'existence. Et on sait que c'est une souffrance à laquelle on peut pallier, bien sûr, mais qui est une souffrance. Pourquoi organiser ce qui risque d'être cause de souffrance? C'est quand même déjà un grand dommage. Bon, on sait que le père est important. Il y a eu ce sondage IFOP auquel je faisais allusion, rappelle que 93% des Français disent le père et la mère sont différents mais complémentaires dans l'éducation d'un enfant. Plus de 70%, peut-être 80% de gens disent que le fait de ne pas avoir de père peut causer de graves dommages dans le développement d'un enfant. Voilà, donc c'est ça qui est organisé, la procréation sans père, de manière légale. Et il est évident qu'il faut que les citoyens sachent exactement de quoi ils retournent. Et c'est le droit de l'enfant à avoir un père et une mère qui est mis en danger par cette légalisation de la PMA pour toutes. Et vous savez en plus que l'Église elle-même n'est pas seulement contre la PMA pour toutes, elle s'oppose à la PMA en elle-même, même pour des couples hétérosexuels, dont la fertilité aurait été diagnostiquement, médicalement diagnostiquée. C'est pas pour autant qu'elle n'est pas consciente qu'il y a des souffrances qui sont liées à l'infertilité. Et que ses parents n'ont pas besoin d'être accompagnés et qu'il est évident qu'il ne s'agit pas de condamner les personnes qui ont recours. Et là, il faut être très très prudent et très délicat. Mais il y a un principe, un grand principe qui a été d'ailleurs, qui trouve sa source dans le refus d'humanévité, du pape policier d'humanévité, de séparer, de dissocier deux significations de la sexualité qui sont intrinsèquement liées par de sages dispositions du Créateur, par l'arbitraire de l'homme au nom de la technique, hein, l'union et la procréation. C'est là le nœud du problème. C'est là qu'est la source de l'amour conjugal et de la famille. Et si on dissocie par l'arbitraire de l'homme, eh ben tout est possible. Toutes les lois sociétales, et encore une fois, qui ne sont pas au service de la dignité humaine.
Vous invitez les catholiques à manifester dans la rue si, par exemple, Non, si par exemple, il y avait des mesures contre la vie qui étaient prises dans ces lois de bioéthique.
Moi, vous connaissez mon point de vue là-dessus, je n'ai pas changé. Hein. J'invite tous les citoyens de bonne volonté, les hommes et les femmes de bonne volonté, qui suivent les injonctions de leur conscience, qui sont sans doute rappelées souvent par l'Église catholique, mais en l'occurrence, il ne s'agit pas du tout d'argumentaire religieux. Hein. Ben, je les invite à se manifester, ça c'est évident.
Une question, Monseigneur, peut-être en rapport avec le problème des migrants, comme avec la bioéthique. Les parlementaires sont en train de légiférer sur la question des lobbies, qui parfois court-circuitent finalement la volonté populaire, ce qui peut être choquant dans une démocratie, par des pressions directes ou indirectes. Et ils ont refusé, ces parlementaires, à la demande du gouvernement, de considérer que les églises, et peut-être plus particulièrement l'Église catholique, pouvait être considérée comme un lobby. Ça vous paraît juste ou est-ce que ça n'est pas problématique compte tenu du rôle que l'Église aussi joue en intervenant sur des questions comme celle des migrations ou la bioéthique?
Alors l'Église n'est pas un lobby, en ce sens qu'elle ne défend pas des intérêts particuliers, donc ça ne me gêne pas qu'elle ne soit pas considérée comme un lobby. Elle ne peut pas être assimilée à n'importe quelle association qui défend telle ou telle revendication catégorielle. L'Église est au-dessus des lobbies, comme elle est au-dessus des partis, comme elle est au-dessus des communautés dans lesquelles on voudrait parfois enfermer telle ou telle catégorie de la société. Elle est divine, elle reçoit son mandat du Christ lui-même et d'aucune institution, fût-elle internationale, et elle porte une parole qui est celle de la vie éternelle, ça c'est notre conviction à nous, et elle rejoint les injonctions salutaires de la conscience, qui est le reflet de la loi de Dieu dans le cœur de tout homme.
Radio La Pour Dire à TIA, 96.8 à Bayonne, 96.9 à Saint-Palais, 106.9 à Saint-Jean-Pied-de-Port.
Dernière partie, nous retrouvons notre évêque, Monseigneur Marc Caillé. Nous allons parler des activités de l'été et puis aussi du chemin de Saint-Jacques de Compostelle, dont vous êtes l'évêque accompagnateur pour la France, vous en direz quelques mots. Alors commençons peut-être par ce que vous allez organiser dans le diocèse cet été, je pense aux missions d'évangélisation.
Alors l'été est toujours l'occasion de transhumance, de migration. Il y a des diocésains qui s'en vont sous d'autres cieux. Et puis il y a aussi beaucoup de touristes qui viennent et d'estivants qui choisissent la côte basque. Parce qu'elle est particulièrement attractive, notre côte basque, pour passer quelques semaines d'été. Je ne sais pas ce que le temps nous réserve.
N'oublions pas le Béarn, vous êtes écouté aussi en Béarn.
Oui, mais je pense que c'est aussi beaucoup la côte basque quand même qui est attractive, même si le Béarn est très attractif aussi. Parce qu'il y a nos belles vallées des Pyrénées, et je sais que maintenant il y a tout un tourisme estival qui se développe dans les montagnes, plus qu'au bord de la mer qui sont parfois saturées. Donc je n'ai pas voulu seulement parler de la côte basque, mais bon, c'est là qu'on a quand même le plus de concentration de population pendant l'été. Ce qui est évident, c'est qu'il faut profiter de ces temps pour pour l'Église, pour donner une visibilité au message de l'Évangile. Parce que le temps des vacances est un temps où on est moins dans le stress des activités professionnelles, étudiantines, scolaires, et en plus dans les concentrations des grandes villes, d'où nos estivants viennent souvent. Et donc c'est l'occasion de réfléchir, c'est l'occasion de se poser, c'est l'occasion de se reposer, de se récréer, de se recréer, et peut-être d'être plus ouvert aux grandes questions de sens qui agitent quand même nos contemporains. Alors c'est l'occasion peut-être d'organiser des démarches d'évangélisation, séries de conférences. Je note particulièrement cette année une très belle initiative qui a lieu à Saint-Jean-de-Luz, qui d'ailleurs fait suite à l'organisation traditionnelle des mardis de l'été à Saint-Jean-de-Luz, mais une proposition très originale faite par son curé, M. l'abbé Lionel Landard, qui était d'inviter tous les mardis de l'été, en juillet et en août, généralement des évêques, sur le thème « Que faire d'une vie ?». Bon, c'est vrai que c'est le fait de la vie, hein, la vie qui est le bien fondamental que nous partageons tous en commun. Et donc il a invité un centre d'évêques, et une très belle distribution, parce qu'il y a le cardinal Ricard qui ouvrira le bal, et c'est Monsieur Perrier qui le fermera, donc c'est très humoristique, le Ricard et le Perrier. Et
vous y serez le 14 août.
Et moi j'y serai le 14 août, donc la veille du 15 août. Et il y aura aussi le cardinal Barbarin qui sera là, l'évêque aussi, l'archevêque maronite de Damas en Syrie, donc monseigneur Samir Nassar, hein, qui est un ami. Et donc c'est, vous voyez, il y a une très belle distribution qui peut aussi attirer, et il y a un message qui sera délivré autour de cette grande question de la réussite de la vie, la fin de vie, la dignité de la vie, toute vie mérite d'être vécue. Hein, ce sera plutôt le thème que moi j'ai choisi de développer. Il y aura Mgr Moller qui sera là aussi, j'ai déjà dit Mgr Perrier. Et puis des démarches d'évangélisation, il y aura la route chantante encore à Saint-Jean-de-Luz avec les dominicains et des jeunes. Il y aura Ayn Karem qui vient pour la deuxième année ou troisième année consécutive à Biarritz autour du 15 août. Il y aura Agour Maria pendant les fêtes de Bayonne, hein, cette traditionnelle démarche d'évangélisation accomplie par des jeunes. Il y aura pas mal de séminaristes cette année qui participeront pour au milieu de cette fête qui rassemble quand même beaucoup de gens, même si cette année j'ai l'impression que avec le ticket d'entrée payant pour ceux qui ne sont pas bayonnais, ça risque de grincer un peu.
Vous n'aurez pas besoin d'acheter le bracelet, vous, monseigneur, parce que vous êtes bayonnais.
Moi, je suis bayonnais, donc pas de problème. Et donc, ça permettra à beaucoup de gens d'être en contact avec une annonce joyeuse, festive, certainement pas agressive, de l'Évangile, qui donne évidemment un sens à notre vie et qui donne un sens à la vie de tout homme.
Alors cette année, nous fêtons le 20e anniversaire du classement des chemins de Saint-Jacques comme bien culturel. C'est un classement effectué par l'UNESCO. Il y a 20 ans, d'ailleurs, votre prédécesseur à cette occasion avait béni le bourdon de la cathédrale, le bourdon Saint-Jacques, puis pour marquer cet événement. Vous vous accompagnez, vous vous retrouvez avec tous les évêques où le chemin de Saint-Jacques passe dans leur diocèse. Et donc vous vous retrouvez régulièrement avec ces évêques et vous êtes l'évêque un peu accompagnateur.
C'est ça, moi je suis l'évêque coordinateur de cette pastorale d'évangélisation sur les chemins de Saint-Jacques pour la France, en lien évidemment avec nos confrères de l'Espagne. Et tout ça, rappelez-vous, c'était l'initiative de l'archevêque de Santiago, hein, de Compostelle, là, qui avait voulu réunir tous les évêques intéressés par le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, en particulier parce que leur diocèse est traversé par ces chemins historiques. Alors c'est vrai que ce 20e anniversaire de la reconnaissance par l'UNESCO des chemins de Saint-Jacques comme patrimoine mondial de l'humanité est incontournable, d'autant plus qu'il y a dans notre diocèse un certain nombre de monuments qui sont effectivement référencés à ce patrimoine mondial de l'humanité, en particulier la cathédrale Sainte-Marie de Bayonne, la porte aussi de la ville de Saint-Jean-Pied-de-Port, l'église de l'hôpital Saint-Blaise, etc. J'ai vu d'ailleurs que la communauté d'agglomération du Pays Basque et la ville de Bayonne, en partenariat avec sans doute les services de l'État, la Direction régionale des actions culturelles, donc la DRAC, ont organisé un certain nombre de manifestations, d'expositions pour commémorer cet événement. Je dois dire être un petit peu surpris que l'Église n'ait pas été sollicitée pour collaborer et participer à un événement qui nous regarde au premier chef. Hein, et là, on entre un peu dans cette difficulté que nous ressentons quant à nous. Et je crois que Mgr Barrio, l'archevêque de Santiago, avait précisément lancé cette pastorale de l'évangélisation sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle auprès des évêques, en les sensibilisant à cette question, précisément parce qu'ils sentaient que les institutions laïques, les États laïques, risquaient de faire une sorte d'OPA sur ce chemin de Saint-Jacques pour le réduire à un bien culturel, alors qu'il est évidemment d'abord un bien cultuel, hein, qu'il est un chemin de foi, dans le sens où il est né de la foi de nos ancêtres qui ont tracé ces chemins pour exprimer leur foi et qui fait que les chemins de Saint-Jacques sont devenus des chemins de communication de la foi chrétienne qui est devenue culture et qui a profondément imprégné notre Europe, hein, de cette culture chrétienne. Voilà. Donc, c'est sûr que nous aurons forcément peut-être pas pendant l'été, même si on célébrera de manière plus festive et plus solennelle la fête de Saint-Jacques le 25 juillet, mais nous aurons aussi des propositions et des manifestations à proposer pour commémorer cet événement et en profiter pour rappeler la nature profonde et la signification essentielle du chemin de Saint-Jacques, qui n'est pas d'abord et pas seulement un bien culturel.
C'est ce que vous rappelez dans la lettre pastorale commune à tous les évêques qui sont traversés par le chemin.
Tous les deux ans, nous organisons des rencontres franco-espagnoles d'évêques et d'acteurs du chemin. Elle a eu lieu ici en 2015 à Bayonne et Saint-Jean-Pied-de-Port. L'an dernier, elle a eu lieu à Saint-Jacques-de-Compostelle. On tente de réfléchir à une nouvelle date parce qu'on le faisait l'été, c'était pas forcément très mobilisateur pour les évêques. Donc elle fera cette fois-ci en France, mais à une autre date qui reste encore à préciser, qui nous permet de partager un peu nos expériences et puis d'avancer sur cette opportunité de faire des chemins de Saint-Jacques un vrai lieu d'évangélisation pour nos contemporains, sachant que, comme vous le savez, 70% des pèlerins ne le font pas pour des motivations chrétiennes, le font pour des motivations tout à fait extérieures à la foi, mais beaucoup, eh bien évidemment, ne quittent pas le chemin de Saint-Jacques de manière indemne, et c'est pourquoi nous avons organisé à Saint-Jacques-de-Compostelle un accueil francophone depuis 3-4 ans qui fonctionne très bien et qui permet de recueillir justement tous les fruits spirituels dans beaucoup de pèlerins de ce chemin de Saint-Jacques.
On peut retrouver d'ailleurs cette lettre pastorale sur le site internet du diocèse, www.diocèse64.org. Monseigneur Hayet, est-ce que vous allez prendre des vacances cet été?
Je prendrai un peu de temps de repos, mais ce sera après le 15 août, comme généralement. Je pars après le 15 août, passer une petite quinzaine de jours en Bretagne. Au frais, sans doute, à cette période de l'année, peut-être un peu plus que sur notre côte basque, en ce moment en tout cas.
Peut-être un mot sur un événement important qui va vite arriver, ce sera le pèlerinage diocésain à Lourdes.
Ah oui, le pèlerinage de l'HBB d'abord, et auquel s'ajoute le pèlerinage diocésain du dimanche 17 septembre cette année, où évidemment on attend de manière particulièrement nombreuse les familles, les fidèles du diocèse, pour une rencontre diocésaine à Lourdes avec les malades et les handicapés.
C'est un peu la rentrée du diocèse.
Pour une rentrée du diocèse pour la nouvelle année pastorale qui s'annonce.
Rendez-vous donc le dimanche 16 septembre, ce ne sera pas le 17 mais le 16 septembre, Monseigneur. Un grand merci à vous, un grand merci à tous ceux qui nous ont suivis, les auditeurs de Radio Lapourdi et de Radio Présence, et un grand merci à Olivier Drapé, délégué épiscopal à l'information et à la communication.